Bienvenue sur notre chaîne Creative Disturbance consacrée aux travaux à l'intersection de l'art et de la biologie. Notre invité du jour est Thierry Bardini. Thierry Bardini, bonjour.
Bonjour.
Thierry Bardini, vous êtes professeur titulaire au département de communication de l'Université de Montréal. Vous enseignez depuis 1993. Vous êtes ingénieur agronome de formation et docteur en sociologie de l'Université de Paris-10-Nanterre. Vos recherches portent sur l'histoire et la sociologie de la cyberculture et se concentrent depuis une dizaine d'années sur ce que vous appelez l'autre devenir fondamental de la synthèse cybernétique, à savoir la biologie moléculaire. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages, dont le plus récent est Junkware, pour ne citer que celui-là, aux presses de l'Université du Minnesota en 2010. Est-ce bien cela?
Oui, tout à fait.
Je sais pas, y a-t-il quelque chose de plus qu'on pourrait ajouter pour l'information de nos auditeurs?
Ouais, je prépare un prochain livre qui est un peu la suite de Junkware, qui s'appellera Viral Life.
D'accord. Merci. Alors Thierry, nous sommes rencontrés à Turin en juin dernier à l'occasion d'une conférence internationale sur le thème de la vie en théorie, c'est-à-dire telle qu'elle est envisagée aujourd'hui par les sciences du vivant. Et votre intervention portait, il me semble, sur le rôle des virus dans l'évolution de la vie et la formation de communautés symbiotiques. Pouvez-vous un instant revenir sur cette idée afin de situer un peu le cadre de notre débat, s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. En effet, ma contribution à Turin portait sur la présence virale dans la science, la technologie, la culture à l'heure actuelle, donc dans ce que j'appelle la cyberculture. Je pense qu'on est à un moment très intéressant qui on a vu venir en gros depuis les années 80 où la convergence des virus informatiques et des virus biologiques devient de plus en plus concrète et bientôt tout à fait réelle.
Ah, d'accord. Dans vos papiers, vous revenez souvent sur la notion de virus convergent, c'est-à-dire de symbiose entre le biologique et le numérique. Depuis quand cette convergence des systèmes?
Bon, alors c'est un peu compliqué, hein, c'est difficile de trouver une première date, mais parce que dès les années 50, quand la virologie commence à donner naissance à ce qu'on va appeler la biologie moléculaire, on s'intéresse beaucoup aux virus et on parle déjà de faire des virus synthétiques. Cependant, c'est seulement au début des années 80 que la notion de virus informatique va exister concrètement. Et je dirais, c'est depuis le début des années 2000 qu'on est capable de littéralement synthétiser des virus biologiques, avec des ordinateurs, que cette convergence devient complètement manifeste.
Et d'où vient cet intérêt pour les virus en particulier?
Ben, les virus, bon, ils ont plein d'aspects très intéressants pour les biologistes, j'allais dire comme pour les informaticiens. Une des raisons qui les rend particulièrement intéressantes, c'est qu'il pourrait s'agir d'une forme de vie absolument minimale, même si la question du caractère vivant des virus a été débattue pendant très longtemps et qu'elle laisse encore des gens assez perplexes. Pour ma part, je considère les virus, voire peut-être même le code, hein, soit sous la forme d'ADN d'ARN, comme des entités vivantes.
Alors, dans vos papiers, vous citez régulièrement de nombreux chercheurs qui affirment que les virus seraient à l'origine de la vie telle que nous la connaissons. Est-ce que cela a été prouvé depuis? Et avez-vous connaissance de récents travaux qui confirment ces découvertes?
Bon, il y a évidemment, il est difficile à l'heure actuelle de donner à l'évolution de la vie un seul moteur, si on peut parler comme ça, même si il est de plus en plus évident que les virus participent du moteur de l'évolution du vivant. Bon, pour beaucoup de gens, dans le paradigme standard, c'est la mutation, hein, donc l'accident, si vous voulez, de transcription ou de traduction des codes qui serait à l'origine de beaucoup de changements dans les protéines qui font notre matière. Cela dit, depuis le décryptage du génome humain et de tout un tas d'autres génomes, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de traces dans notre génome de virus antérieurs, D'où l'hypothèse que vous évoquiez d'une symbiose des virus avec d'autres formes de vie. C'est ce qu'on appelle aussi l'endosymbiose quand on parle de bactéries. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les symbioses entre le numérique et l'analogue, entre le vivant et le digital, si vous voulez. Et là aussi, les virus se trouvent à une zone de, on va dire, d'interface.
Ok, merci. Alors en fait, ce que nous aimerions savoir, c'est ce que cela apporte de nouveau réellement en termes de recherche. Est-ce que ces travaux sont effectivement appliqués et mènent à des réalisations dans des laboratoires, et mènent à des expérimentations, je veux dire, dans des laboratoires, ce qui mène à des réalisations à échelle industrielle, ou bien ils ne sont expérimentés à votre connaissance que dans les arts. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Bardini?
Ben, je pense que ça a d'abord commencé comme des recherches fondamentales, hein, donc en virologie, à l'origine de la biologie moléculaire et ce genre de choses. Ça a ensuite été approprié de plein de manières, y compris à l'origine de, on peut dire, d'une véritable industrie, hein. Les biotechnologies passent beaucoup par un phénomène qu'on appelle la transduction virale. Enfin, il y a eu des applications ou des usages, on va dire, artistiques du biologique, du vivant, et même un peu des virus dans le domaine des bio-arts.
Vous pouvez revenir sur la notion de transduction virale, parce que vous en parlez souvent, et d'évolution, enfin de résonance interne et d'évolution à parallèle. Ces trois concepts et notions que j'ai souvent retrouvées dans vos...
Bon. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui se mélangent là, puisqu'il s'agit de registres un peu différents. Moi, ça m'intéresse parce que justement, ce sont des registres qui ont été mobilisés par des gens très, très différents. Le concept de transduction, qui en biologie veut dire tout simplement le passage d'une séquence, d'un ensemble de bases, d'un acide aminé, d'une entité vivante à une autre par le biais d'un virus. Donc, cette transduction-là, elle est aussi employée comme un concept dans la philosophie d'un philosophe français qui m'est très très utile, s'appelle Gilbert Simondon, et lui il parle d'une transduction généralisée, hein, pas seulement transduction virale. Donc ce qui est intéressant, moi j'enseigne en communication, c'est d'envisager le virus, toutes les formes de virus, non pas seulement comme des entités néfastes, susceptibles de nous rendre malades, avec tout ce vocabulaire de la contagion, et ainsi de suite, mais au contraire, de les penser comme des messagers actifs, dans des passages de messages génétiques, par exemple, d'une entité à une autre. L'évolution à parallèle, c'est justement, chez Deleuze et Guattari, entre autres, cette notion qu'il y aurait des évolutions, si on veut dire, rhizomatiques, qui passeraient d'une entité à l'autre sans passer par les mécanismes de la filiation, c'est-à-dire de la reproduction sexuée.
Et vous les voyez, cette évolution à parallèle, vous la voyez à l'œuvre entre le monde analogique et le monde numérique?
C'est ça, je pense qu'on est à l'aube de ce genre de phénomène. Alors, il y a plusieurs signes qui me permettent de dire ça sans trop paraître un écrivain de science-fiction, même si c'est un risque que je cours. D'abord, il commence à y avoir une véritable révolution industrielle autour de ça, une nouvelle révolution industrielle. Moi, je l'appelle le capitalisme génétique ou le venture capitalisme du nom de sa tête de file la plus médiatique, Craig Venter, qui a quand même décrypté le génome avec sa compagnie privée au même rythme que le consortium public, qui a aussi synthétisé un virus assez rapidement avant il y a peu de temps finalement de synthétiser complètement une bactérie. Il a dit de cette bactérie que c'est le premier organisme dont le parent était un ordinateur. Donc cette notion d'une convergence ici, d'une évolution à parallèle, on va dire une évolution à parallèle étendue, non seulement au domaine du vivant, mais au domaine aussi du numérique et de ces entités qu'on appelle souvent des vies artificielles à base de silicone.
Oui, vous dites que le capitalisme génétique est la phase contemporaine du capitalisme qui poursuit, selon vous, la série des travaux de Michel Foucault, Gilles Deleuze et Félix Guattari sur les sociétés de contrôle et disciplinaires décrites par ces auteurs. Alors, pensez-vous que ce nouveau visage du capitalisme soit aussi dangereux que les autres, ou bien qu'il soit qu'il peut être inoffensif pour filer la métaphore avec la notion de virus. Enfin, je veux dire, comment appréhendez-vous cette nouvelle phase du capitalisme?
Disons que j'écarterais dès le début la notion d'un capitalisme inoffensif.
Oui.
Je ne pense pas que le capitalisme ait jamais été inoffensif. Hein. Un des économistes les plus connus parlait de destruction créative à son sujet. Je crois qu'on est obligé de manier l'oxymoron pour parler de ce genre de phénomène. Cela dit, je ne veux pas imaginer non plus un fonctionnement économique absolument hégémonique à l'heure actuelle, uniquement sur le mode de la destruction et de son caractère négatif. Je pense évidemment qu'il y a plein de choses qui se passent à l'heure actuelle de l'ordre de ce capitalisme qui sont difficilement jugeables à partir des simples catégories du bien et du mal. J'ai l'impression que, comme Nietzsche l'avait anticipé, on est maintenant rendu par-delà le bien et le mal dans des zones grises qui nous restent à définir, sur lesquelles il faut réfléchir.
Oui, parce que dans votre article sur rivalité et numéricité, vous mentionnez l'exemple de cet hacker qui annonçait que nous étions à l'aube d'une nouvelle ère où les mondes informatiques et biologiques se rejoignaient et qui se voyaient en fait opposés par un autre chercheur, un scientifique, l'idée selon laquelle ces pratiques pouvaient mener à des risques terroristes, en fait, c'est-à-dire en fait l'argument selon lequel ces pratiques pourraient mener à des formes de nouveau terrorisme, de bioterrorisme, et les conséquences néfastes que cela pourrait avoir. Alors, je m'interroge notamment sur les risques de ce nouveau, enfin sur les visages, pardon, de ce nouveau capitalisme qui apparaît ici en réalité comme le fruit d'une réappropriation culturelle de la science par des communautés amateurs qui sont pourtant étrangères à ceux à qui on attribue habituellement le contrôle de la société. Que pensez-vous de ce nouveau renversement?
Oui, alors bon, tout ça est une élaboration, comme vous l'avez remarqué, hein, sur les travaux de Foucault et de Deleuze. Beaucoup de mes collègues semblent assez contents d'en rester à ce que Deleuze avait appelé les sociétés de contrôle.
Oui.
Donc dès les années 80. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des évolutions assez radicales qui font qu'on sorte de ce paradigme du contrôle à l'heure actuelle. Le capitalisme, pour le dire autrement, il est devenu deleuzien, à mon sens, c'est-à-dire rhizomatique, c'est-à-dire fait d'entités diverses qui ne correspondent plus à la description qu'on en faisait sous le titre de société de contrôle. Cela dit, évidemment, comme vous l'avez précisé, le capitalisme génétique, c'est une nouvelle phase, c'est la phase contemporaine. Et le capitalisme dans son ensemble, c'est l'ensemble de ces phases. Il y a encore des phases disciplinaires et une phase de contrôle dans le capitalisme contemporain, je ne le nie pas du tout, hein, au contraire. Et probablement que la phase de contrôle, elle reste dominante à notre époque. Mais on voit poindre une nouvelle forme de capitalisme avec des nouveaux acteurs. Pour partie à cause de l'évolution technologique, les moyens maintenant dans les mains du quidam moyen, comme ce hacker dont vous parliez. Bon, faut savoir maintenant qu'un équipement standard de biologie moléculaire pour équiper un laboratoire est tout à fait à la portée d'un particulier, hein, et de plus en plus, ça va l'être de plus en plus. Donc rien que ça, ça change la donne. Mais aussi l'évolution des savoirs et même de la culture tout court, puisque on peut envisager ces passages maintenant. Et pour cette génération de jeunes gens et de jeunes femmes, comme ce hacker, Mario, enfin il a plein de pseudonymes évidemment, le genre d'association auquel je fais mention ici, le genre de rapport qu'on peut faire entre la technique, les savoirs et puis des pratiques est tout à fait, j'allais dire, normal.
Et comment les retrouvez-vous dans le monde artistique? Est-ce qu'il y a des travaux qui vous semblent importants, pertinents à cet égard?
Oui, alors il y a bien sûr toute une série de travaux qui, à mon avis, renouvellent l'art contemporain. Hein. C'est pas rien de voir maintenant des artistes qui considèrent le vivant même comme leur médium. On pense à, j'allais dire, des vieux de la vieille comme Joe Davis, Eduardo Katz, ou alors Oren Katz, par exemple, qui font des formes très très différentes de bioart. À ma connaissance, il n'y a pas encore.
Je veux parler d'artistes qui se servent plus particulièrement des virus. Hein.
Bon, bah, à partir du moment où on manipule, comme Eduardo Cash l'a fait avec son fameux lapin, ou comme Joe Davis le fait, lorsqu'on manipule du vivant pour y introduire une nouvelle séquence, l'intermédiaire qui permet d'introduire la séquence dans l'hôte, que ce soit une bactérie ou une plante ou un lapin, c'est très souvent l'analogue d'un virus. Alors, on va parler de plasmide plutôt que d'entité virale, mais à toute fin pratique, ça fonctionne comme un virus, cette affaire. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de bioartistes à l'heure actuelle qui focalisent sur le virus en tant que virus. Comme médium proprement dit. C'est plus un outil dans des, on va dire, dans des manipulations biotechnologiques assez standards, comme on le verrait beaucoup dans l'industrie. Moi, je me suis donné un peu comme tâche de réfléchir à ça et peut-être même d'y participer, puisque depuis le mois de mai dernier, je participe à un groupe qui est accueilli par la société finlandaise de bioart, avec un gros financement européen. Ça s'appelle Making Life. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette initiative.
Oui, mais allez-y pour l'information de nos auditeurs.
Alors, en fait, il y a eu un appel à contribution l'année dernière où Eric Berger, qui est la personne en charge de ce projet, appelait des artistes, des designers à envoyer un dossier pour participer à ce groupe qui va se réunir 3 fois. C'est réuni une fois en mai dernier, une autre fois en novembre de cette année et une autre fois en mai de l'année prochaine, toujours à Helsinki. Et l'idée, c'est de constituer une équipe pluridisciplinaire de gens qui vont réaliser un projet de bioart. J'ai été accepté parmi la dizaine ou la douzaine d'étrangers qui participent à cette équipe, le reste étant constitué de Finlandais. Et j'ai été accepté non seulement comme observateur, comme on va dire anthropologue, parce que c'est un peu ça que j'essaie de faire, mais aussi comme participant. Et je me suis donné comme agenda de faire réfléchir tous ces artistes et designers avec moi à cette question virale et peut-être de produire une œuvre bio-artistique centrée sur les virus.
Avant de conclure, j'aimerais revenir un instant sur ce que l'on appelle l'état critique de la théorie et que vous développez d'ailleurs dans un autre article. Et j'imagine, après lecture de ce papier, que les pratiques actuelles du bioart confirment cet état actuel de la critique esthétique. Qu'est-ce que
Oui,
vous en
alors en
pensez?
fait, c'est à mon sens toute forme de théorie à notre époque est dans un état critique, et par là, j'entends pas un état entre la vie et la mort. J'entends quelque chose d'un peu plus compliqué, ce serait peut-être un peu difficile d'expliquer ici dans les détails, mais disons une période révolutionnaire dans notre manière d'anticiper théoriquement les choses. Et je pense en effet que le bioart fait partie des symptômes de cet état critique. Je disais, en fait, j'ai écrit cette chose en particulier avec mon collaborateur et ami Dominique Lestel à Paris, qui a beaucoup écrit sur la philosophie, sur la question animale, comme on dit un peu rapidement. Tous les deux, on défend la thèse que les bioartistes font plus que représenter un état d'une question quelconque. Donc, ils pensent avec des concepts et des pratiques, et ils théorisent d'une autre manière les rapports à d'autres formes de vie, les questions éthiques et politiques qui y sont liées. Et il me semble que, ce faisant, ils participent bien d'un état critique de la culture ou de la théorie.
Et vous empruntez ce vocable à Gilbert Simondon aussi, il me semble.
Oui, encore, oui. Qui
Oui.
lui-même l'emprunte à la thermodynamique. Tout à l'heure, on a parlé de phase, hein, de phase du capitalisme. Lui emploie ce concept de phase aussi dans le sens de la thermodynamique, comme on dit par exemple que l'eau, ce composé H2O, possède 3 phases en fonction des conditions de température et de pression qui règnent, une phase liquide, une phase solide et une phase gazeuse. C'est les 3 phases ensemble qui font ce composé qu'on appelle eau. Donc j'emploie le sens, le mot phase critique dans ce sens-là, c'est-à-dire un moment où 2 phases sont en situation d'indistinction ou lorsqu'on passe d'une phase à l'autre. Et je pense qu'on est en train de passer de la phase du capitalisme de contrôle au capitalisme génétique. Je crois qu'on est en train de changer de paradigme de manière très, très fondamentale sur ce que le vivant lui-même est et veut dire. Et je pense que toutes ces choses sont, entre autres, discutées, appréhendées et pratiquées par les bioartistes.
Merci beaucoup Thierry Bardini pour votre éclairage et pour votre disponibilité avec nous aujourd'hui.
Puis ça m'a fait plaisir et
Ah.
je vous souhaite bonne suite avec ce site web qui paraît très intéressant.
Mais de rien, c'est nous qui vous remercions encore Thierry Bardini. Et si vous voulez en savoir plus sur notre invité du jour ainsi que sur les rapports entre art, virus et biotechnologie, rendez-vous sur notre site web creativedisturbance.org.